Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webcast de la Virtual Academy. Je m'appelle Sébastien Pertus et nous allons voir aujourd'hui une nouvelle partie qui s'intitule OData et WSF Data Services. Alors comme d'habitude, vous avez toujours accompagné de ce webcast un fichier Word sur lequel eh bien, vous avez tout expliqué. Alors globalement aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien on va parler de la suite de ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire l'évolution de WCF et du Endpoint Web HTTP Binding qui permet d'exposer du JSON. Bon, on a vu que le gros souci, c'est que eh bien, c'était pas très normalisé tout ça. Et aujourd'hui, on va voir que grâce à une nomenclature particulière, une convention qui s'appelle OData, associée à une SDK qui s'appelle WCF Data Services, eh bien, on va pouvoir arranger un petit peu tout ça. Alors, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu dernièrement. Alors, il faut savoir que, eh bien, d'abord, on a vu ADO.NET. D'accord ? Avec ADO.NET, on a vu globalement Entity Framework 6, qui permet en local de récupérer des données sur SQL Server ou sur SQL Server. Ou sur MySQL, ou sur Oracle, etc. Voilà. Ça, c'est ce qu'on sait faire. Après, on a vu WCF. WCF avec notamment des HTTP, des bindings HTTP, qui sont basic HTTP binding, HTTP binding, et WS HTTP binding. Ces bindings ils sont globalement, ils intègrent un protocole qui est SOAP, donc qui travaille à base de requêtes POST et d'enveloppes XML. Ok. Et puis on a vu aussi, toujours en HTTP, le Web HTTP Binding qui permet d'exposer du JSON. D'accord. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle du REST. Le reste, c'est quoi? C'est une architecture. C'est une architecture qui propose globalement de dire, eh bien, on travaille en HTTP. Il permet de dire qu'on utilise l'URI comme moyen de communication. Et on renvoie du JSON ou du XML. Mais par contre, il n'y a pas de nomenclature particulière. Alors, ce qui est très important de dire, c'est que vraiment, SOAP et REST, c'est différent, mais c'est même pas la même chose en fait. SOAP, c'est vraiment une nomenclature basée sur des enveloppes SOAP avec un langage autodescriptif, tandis que REST, c'est un management de ressources et c'est vraiment une architecture. Si on voulait vraiment comparer SOAP à REST, il faudrait rajouter quelque chose à REST pour que ça fonctionne. Et globalement, ce qu'il faudrait que l'on fasse, c'est trouver un moyen de nomenclaturer ça, de nomenclaturer REST pour avoir quelque chose de standardisé. D'accord ? Donc globalement, pour vous donner une idée, hein, ce qu'on est capable de faire quand on fait du REST, je vais prendre des exemples. Si on prenait, donc on a toujours, vous savez, des URI classiques, hein, mais surtout, c'est que si jamais je voulais récupérer l'ensemble des customers, je pourrais le faire avec, par exemple, une URL qui serait getCustomers, ou une URL qui serait customers, ce qui représenterait finalement la collection des customers pluralisée, ou alors on peut faire un get avec un point d'interrogation et avec un query string qui est derrière, etc. Ça, globalement, ça respecte REST, mais ça ne permet pas de faire, d'avoir quelque chose de standardisé. Surtout, globalement, si je n'indique pas à mon client comment faire pour récupérer les customers, c'est-à-dire c'est une de ces trois URL, eh bien, votre client n'est pas capable de savoir. De même, lorsque vous renvoyez des données, eh bien, vous pouvez renvoyer des données un petit peu n'importe quoi. Si je renvoie un client, je peux le renvoyer sous format XML comme ça avec toutes les propriétés sous forme de sous-éléments. Ou je peux aussi renvoyer un client, par exemple, comme ceci. D'accord ? En ayant toutes les propriétés sous forme d'attributs, sauf peut-être l'adresse. Bref, tout ça, c'est du XML standard et REST eh bien, accepte ce genre de comportement. Il n'y a pas de souci. Donc globalement, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une convention qui s'appelle OData. Globalement, OData, c'est quoi? Donc si vous voulez quelques informations sur OData, eh bien vous avez un site web. Donc c'est odata.org. Odata.org, c'est un site web sur lequel vous allez pouvoir récupérer des informations. Alors OData, c'est vraiment une convention, c'est quelque chose d'écrit. Ça a été fait au départ par les équipes Microsoft, et donc Eureka, pour une fois. Eh bien, c'est une nomenclature qui a bien marché sur le web. Les gens ont commencé à beaucoup utiliser, et aujourd'hui, c'est en passe de devenir la norme d'utilisation d'une nomenclature à utiliser avec l'architecture REST. Voilà. Donc globalement, pour vous donner une idée, eh bien, vous allez pouvoir avoir sur ce site web l'ensemble de la documentation de comment est-ce qu'on écrit des requêtes OData, comment est-ce qu'on expose des données OData. Vous avez aussi des librairies qui permettent d'intégrer ça dans vos outils. Vous avez dans l'écosystème, vous avez aussi des consommateurs et des producteurs qui permettent de produire des contenus OData et qui permettent aussi de les lire. Alors ce qui est bien, c'est que comme tout ça c'est nomenclaturé, comme ça permet de décrire un flux OData, un flux de données OData, et bien vous avez des outils. Par exemple, vous avez l'ensemble de ces outils-là. Moi, j'utilise Sésame, qui est un outil qui permet de lire n'importe quel flux OData. Donc, si je vous donne un exemple, lorsque mon lecteur Sésame. Bon, il faut que je le lance. Voilà. Donc, je vais repasser sur mon écran. Hop. Voilà, donc pour vous donner une idée de l'utilisation de OData, voici un flux OData, donc qui est vraiment normalisé, etc. Donc là, c'est celui qu'on va faire ensemble en fait. Et vous voyez qu'ici, j'ai l'ensemble des collections qui représentent finalement l'ensemble de mes tables. Et si je veux attaquer une collection par exemple de customers, eh bien voilà, j'attaque directement la collection customers et ça me donne l'ensemble des customers. Alors, donc là, sous format XML. Et ce qu'il y a de bien, c'est que César, eh bien, il est capable de récupérer ce flux. Puisque c'est un flux qui est normalisé, c'est un flux OData, je le répète encore, et d'aller l'interroger et de récupérer l'ensemble des catégories de mes affichés dans une application lourde installée sur mon poste, qui est pour l'information une application Silverlight. Bref, donc ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est d'exposer un flux OData et d'aller le requêter, que ce soit en JSON ou que ce soit en XML. Voilà. Bien, donc pour ça, eh bien, j'ai créé une application web, donc pour l'instant elle est vide, c'est juste pour aller un petit peu plus vite, et on va rajouter ensemble l'ensemble de tout ce qu'il faut pour créer un serveur OData. Donc pour ça, je vais rajouter d'abord un modèle ADE DNX, donc ça on l'a vu ensemble, c'est un petit framework 6, hein. Donc Northwind, donc je le génère, je lui dis à partir d'une connexion sur mon serveur SQL 2014. Donc ça, toujours pareil, on récupère la base de données Northwind. Évidemment, tout ça fonctionne quel que soit le niveau de votre base de données. Je fais du Entity Framework 6, OK, et je vais récupérer l'ensemble des tables, OK, sauf la table 6 diagramme qui ne sert à rien. Bien, voilà. Donc là, ça va me générer mon DNX, qui est donc la représentation de ma base sous format objet. Bon, ça, je ne reviens pas là-dessus, ça fait partie des modules précédents. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que si vous voulez, globalement, pouvoir exposer des données sous ce type-là, ou en tout cas sous un type qui est le type OData, et répondre à des requêtes, il vous faut connaître OData. Et si vous ne connaissez pas OData, ça va être un petit peu compliqué. Donc du coup, WSF Data Services, eh bien, c'est un SDK qui est finalement l'implémentation qu'ont fait les équipes Microsoft de la norme OData. Globalement, WSF Data Services, ça va vous permettre de vous abstraire de connaître OData et ça va vous permettre eh bien, de générer l'ensemble des entités sous format OData sans avoir besoin de connaître la spécification au global. Donc comment est-ce que l'on travaille pour faire ça? Eh bien, j'ai ici directement, je vais rajouter un nouvel élément. Alors pour donner une idée, aujourd'hui, WSF Data Services, on est à la version 5.6, donc je vais faire WCF, et vous avez ici WSF Data Services 5.6, je vais donc appeler ça Northwind Services, par exemple. Donc ça va me rajouter, vous allez voir, il me rajoute des packages, on voit en bas ici, hein, sur mon écran, l'ensemble des packages NuGet correspondant à OData. Donc vous les avez ici, hein, Microsoft, Data, EDM, etc., etc. Pour la petite information, comment on travaille avec Entity Framework 6 et qui est sorti après WCS Data Services 5.6, eh bien Visual Studio n'a pas encore été mis à jour dans ce sens-là. Donc il faut rajouter un petit package NuGet. Donc je vais vous montrer comment faire. Sachez que dans une prochaine mise à jour, ça sera plus nécessaire. Bon. Donc ayant dit cela, globalement, qu'est-ce qu'on fait? On va ici rajouter une NuGet package référence. Alors attention, je me suis fait avoir tout à l'heure, n'oubliez pas de bien préciser include pre-release. Voilà. À partir de là, vous allez sur le online, vous mettez Microsoft.odata et me semble-t-il, c'est le premier, voilà, WCF Data Services Entity Framework Provider. Voilà. C'est un petit package à rajouter pour que tout fonctionne correctement. Donc je vais le rajouter. Voilà. Ok, accepte. Donc là, il me rajoute tout ce qu'il faut, voilà, ça c'est fait. Bien, donc globalement, il m'a rajouté ici ce petit package qui est là, hein, voilà, Microsoft OData Entity Framework Provider. Voilà. À partir de là, je suis OK. Donc à partir de là, je peux ouvrir ce fichier SVC. Alors juste pour information, on va regarder le code source C Sharp. Vous pouvez regarder le markup et on retrouve bien un service host ici, hein, avec une factory qui est un peu différente, mais globalement, qui est ce que l'on a vu quand on faisait du WCF, avec le service qui est derrière. Donc on est vraiment encore dans une implémentation WCF. Hein. Donc je vais fermer ça. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, au niveau du svc.cs, vous voyez que une classe qui hérite de data service va prendre en paramètre ici un entity model. Donc ici, je vais spécifier Northwind Entities. Voilà. Et donc, normalement, si vous étiez à une version inférieure à Entity Framework 6, ça serait terminé. Mais là, comme on est à la version 6, il faut juste changer data services par Entity Framework Data Services avec le using qui va bien. Voilà, c'est cette petite manipulation qui sera plus nécessaire à l'avenir. Voilà. À partir de là, je vais configurer mon service WCF Data Services qui expose mon data. Alors là, je vais faire un truc très très simple, mais sachez que vous allez pouvoir configurer des entités en lecture seule, intercepter des requêtes pour pouvoir changer le résultat. On va pouvoir spécifier des requêtes particulières suivant les droits que vous avez, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à customiser. Pour l'instant, ce que je vais faire tout ouvert. Et je vais dire qu'on est quand même dans le droit de lire et aussi d'écrire. Donc c'est all. Alors, on a le droit de faire toutes les opérations. Voilà, donc là, c'est vraiment, j'ai ouvert ma base de données au protocole à data complet. Voilà. Donc à partir de là, vous allez voir que finalement, j'ai plus rien besoin de faire pour que ça fonctionne. Je vais juste compiler, build. Je vais fermer ici mon browser pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et je vais regarder ça dans un browser. Et automatiquement, grâce à WSL Data Services, vous allez voir et voilà, que j'ai exposé toutes mes données sous format OData. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je peux maintenant directement les attaquer, catégorise et récupérer l'ensemble des données sous format OData, pas de souci. Donc ici, par exemple, je peux même ici récupérer la catégorie, ce qui est la numéro 1, donc si je me rappelle bien, c'est comme ça, voilà, qui me récupère l'entité numéro 1, qui est donc vraiment qui est donc le langage utilisé par la nomenclature OData. Bien. À partir de là, donc là on a exposé côté serveur nos données et ce qu'on peut faire c'est exposer et récupérer ces données côté client. Je vérifie juste si je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire globalement sur la partie serveur. Donc ça me paraît pas trop mal. Ok. Donc pour la partie client, eh bien vous allez voir que c'est pas très compliqué non plus. Globalement, on va rajouter un nouveau projet. Donc je vais faire des projets console parce que pas besoin de faire grand chose de plus. Hein. Donc ça va être client. OData. Alors le premier, je vais faire sans WCF Data Services pour vous montrer la différence. Voilà. Donc en fait, OData, pas besoin de quoi que ce soit pour attaquer un flux OData. Il faut juste faire une requête web pour aller récupérer les données. Je vais vous montrer un petit peu, alors je l'avais déjà préparé à l'avance, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe si vous n'aviez pas la possibilité, si vous n'utilisez pas le SDK de WCF Data Services. Donc pour faire ça, c'est pas très compliqué. Globalement, il faut qu'on fasse ici une requête HTTP, donc je vais directement récupérer un code que j'avais déjà écrit. Donc globalement voilà, donc là aussi vous faites une requête HTTP, donc je crée un HTTP client. Alors il faut que je rajoute évidemment les références qui vont bien, Donc c'est dans système.net. Système.net. Hop. .net. .net HTTP. Peut-être pas la 2, la 4. Voilà. Ok. Donc à partir de là, je devrais avoir le using qui va bien. Voilà. Donc l'URL, donc je suppose que l'URL n'est pas bonne. View in browser, l'URL c'est celle-ci. Voilà. Voilà. Donc voilà l'URL. À partir de là, il faut que je construise l'URL complète de ce que je veux récupérer. Si par exemple, je veux récupérer eh bien, les catégories et que je veux y appliquer un filtre, il vous faut connaître la structure, la nomenclature de construction d'une URL au data. Voilà par exemple ici pour pouvoir un filtre pour récupérer l'ensemble des customers qui commencent par A. Donc ça évidemment il faut connaître, hein, mais la convention et la nomenclature est bien documentée. Par contre il faut la lire. Après ce que je vais faire, je vais lui dire de me renvoyer ça sous format JSON. Donc là il faut rajouter un header que je fais ici. Hop, je vais faire le using qui va bien. Donc je lui dis que c'est du JSON. Et après ce que je vais faire, je vais récupérer la réponse. Je vais récupérer la réponse. Hop là, et voilà, je vais récupérer une réponse qui est globalement, alors c'est du waitable, donc ce que je vais faire, je vais mettre ça dans une méthode qu'on va appeler private async static void sample 0.1. Voilà. Ok, donc ici je fais mon await et je récupère mon résultat. Ce que je vous propose, c'est de voir directement ce que ça donne. C'est ce que ça donne à l'exécution. Donc set a startup project, voilà. Ok, F5. Donc ici, je me suis trompé évidemment, il faut que j'appelle le sample 6, non ça va pas marcher. Sample 01 console.readline. Hop là, oui, allez go, donc on y retourne. Donc voilà, donc ici je fais un HTTP client, je fais mon URL, je fais mon await, j'envoie la requête, je regarde que tout soit bien passé et je récupère le response body et vous voyez que j'ai ici l'ensemble de mes données sous format JSON. Donc là je suppose qu'il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a un ou deux, mais maintenant il faut que je décompose ce JSON et que je crée l'entité qui va bien derrière. Donc pour créer l'entité, encore une fois, je fais vraiment de A à Z sans rien utiliser d'autre que les projets par défaut. Je vais donc rajouter ici une classe que je vais appeler Customer. Voilà. Donc encore une fois, pour aller vite, je vais récupérer directement la classe Customer que j'ai créée auparavant. Donc je l'écris ici. Là, voilà. Donc il reprend exactement ce que comporte mon flux JSON d'arrivée. Et après, ce que je vais faire, il faut que je décompose ce JSON en un objet. Donc ce que je vais faire ici, pour aller plus vite, je vais quand même rajouter une librairie qui s'appelle JSON.net, que vous devez sûrement connaître, qui permet de travailler directement avec des flux JSON. Si vraiment je devais le faire à la main, ça serait super long et super fastidieux. Déjà que là, je trouve que ça l'est un petit peu. Globalement, avec JSON, je vais pouvoir m'abstraire de lire ce JSON, de lire chacune des propriétés et de comprendre comment ça fonctionne. Alors c'est vrai que je pourrais utiliser aussi le JSON, le Data Contract Serializer JSON de base, mais c'est vrai qu'aujourd'hui JSON.net est vraiment une des bibliothèques les plus utilisées quand on travaille avec JSON. Bref, voilà qui est fait, et après ce que je vais faire globalement, eh bien, je vais directement récupérer ce qui arrive de mon flux, et je vais le lire. Donc là, je vais, alors, pour la petite histoire, j'utilise un dynamique sans vraiment rentrer dans les détails. Ça permet vraiment de désérialiser mon fichier string en un objet dynamique. Et après, je le transforme en une liste de customers. Voilà, donc vraiment, si je ne me trompe pas, ça devrait fonctionner. Hop, F5. Et ici, je récupère l'ensemble de mes customers. Donc, bon, ça reste pas très très compliqué, mais le gros souci dans ce genre de méthode-là, eh bien, c'est qu'on va être obligé de connaître les types d'URL que l'on peut faire pour faire des filtres. Et surtout, il va falloir qu'on se tape l'ensemble de toutes les les entités que l'on peut récupérer, etc. C'est assez fastidieux et on va voir qu'on est capable de faire beaucoup beaucoup plus simple finalement en utilisant eh bien, le SDK WSL Data Services. Donc globalement, comment est-ce que je fais? Eh bien, vous allez juste faire un add service référence sur votre point SVC. Donc là, je suppose qu'il va le trouver. Voilà. Je vais donc appeler ça Northwind Proxy. Et à partir de là, vous allez voir que ça va me générer tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir travailler. D'abord, ça va me rajouter l'ensemble des références nécessaires. Là, je n'ai rien besoin de rajouter plus. Et si je vous montre le code qui est derrière, vous allez voir qu'il m'a généré l'ensemble de toutes mes entités. Donc d'abord, j'ai le morceau d'entities. Et après, j'ai l'ensemble de toutes mes entités, catégories, qui en plus, il y a une notified property change, j'ai customer démographique, etc., etc. Et la fameuse classe customer. Grâce à ça, vous allez voir que je vais pouvoir automatiquement maintenant générer eh bien, des requêtes vraiment beaucoup plus simplement que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc si je vais faire un nouveau sample, private, on va le faire en 5, static void sample 02, tac tac. Voilà. Donc cette fois-ci maintenant je vais, alors, par contre du coup mon projet est mal nommé, je vais juste faire client au data. Donc à partir de là, je vais l'appeler ici, sample numéro 2. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on le fasse vraiment en utilisant WSL Data Services. Et vous allez voir que c'est quand même vachement plus simple. Pour ça, eh bien, je vais juste déclarer NorthwindProxy.NorthwindEntities. Donc contexte égale new NorthwindEntities. Je lui passe une URL. New, alors je vais mettre ça à la ligne. New URI. Et donc je lui passe mon URL qui est donc celle-ci. Vous voyez ici, pas besoin d'utiliser un quelconque objet HTTP client. Voilà, c'est déjà encapsulé là-dedans. Et après, si je veux utiliser du JSON, encore une fois, pas besoin d'intercepter les headers. Je vais directement faire contexte. Ça va être format. Use JSON, voilà, super. Et après, je vais faire directement ma requête. Et c'est là que c'est super intéressant. Vous allez voir, je fais une requête linked entity. Je fais un var customers. Prends donc from c in context.customers. Select c. Je vais faire un where c.customerId.start with a. Select C, point to list. Voilà, voilà, c'est génial. J'ai fait une requête link et je peux directement récupérer le résultat. Et après, il ne me reste plus qu'à le parcourir. Donc ici, je vais faire for each var cust in customer console.writeline de customer ID plus espace espace plus cust point contact name. Voilà. Et à partir de là, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple hein, puisque du coup ici j'ai plus besoin de connaître ni la syntaxe des URL ni d'avoir besoin de générer les entités parce que c'est tout fait pour moi grâce au fait que je fasse du OData et que tout ça est normalisé et donc Visual Studio a pu générer le code qui va bien. Ici, donc, je déclare, j'utilise mon format JSON, je fais ma requête qui va requêter et qui récupère mes anciens customers. Et vous voyez que j'ai bien récupéré mes 4 customers qui sont bien remplis correctement. Et je peux les écrire. Et voilà. Donc, vous allez voir qu'après, avec OData, c'est beaucoup, c'est super pratique à utiliser. Vous voulez faire, par exemple, je ne sais pas moi, une mise à jour, d'une entité. On va dire, par exemple, on va dire une insertion, tiens, voyons voir, je vais faire une insertion. Donc, je vais reprendre vite fait un morceau de code que j'avais déjà écrit. Hein. Donc je vais faire un customer. Donc voilà un nouveau customer. Donc je vais l'appeler, donc ça va être moi. Voilà. Et après ce que je vais faire, eh bien, je vais l'insérer. Et comme vous allez voir que c'est complètement évident avec WSL Data Services. Donc là je déclare mon contexte. Je fais tout simplement un contexte. Add to customer de C. Okay. Et après, qu'est-ce que je fais? J'appelle. Alors, par contre, customer, du coup, ici, il faut peut-être que je lui dise que c'est bien celui qui est dans ce namespace-là. Pardon. un swing.proxy customer égale. Voilà. Et donc après, ce que je fais ici, je vais juste faire un await de context.saveChanges. Hop là, et voilà. Donc je vais appeler sample 3 ici, et vous allez voir que c'est super pratique. Du coup, je n'ai pas besoin de m'embêter. Alors tiens, ce que je vous propose même de faire, c'est de faire une trace. Je vais utiliser Fiddler pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc Fiddler, je vais le lancer. Voilà qui est fait. Et pour voir un petit peu ce qui se passe, il faut juste rajouter ici l'appel pour que ce soit tracé par Fiddler. On va faire un point Fiddler ici, voilà, qui permet juste de dire à Fiddler d'intercepter la requête. Donc ici, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas cut not await. Alors, est-ce que je me trompe? Context.saveChanges. Ok, on souhaite. Ici, donc je vais mettre un point d'arrêt ici. Vous allez voir que ça devrait le faire. Donc F5. Et voilà. Et donc si je regarde ma trace, donc voilà ici, il a bien réussi à m'insérer mon customer. Et d'ailleurs, il me renvoie le customer. Il me renvoie le customer, le résultat de l'insertion, au cas où il y aurait des triggers qui étaient levés ou une génération d'un identifiant depuis la base de données. Voilà. Donc évidemment, vous pouvez faire de la suppression, de l'édition, et je vous ai mis l'ensemble de ces exemples-là dans le fichier jeu. Bien, donc c'était rapidement une petite présentation de OData et de WSF Data Services qui vous permet finalement de très simplement créer un serveur OData et d'utiliser un client pour pouvoir requêter vos données en OData ou les exposer. Donc n'hésitez pas à aller sur le site web de l'équipe WSF Data Services. Leur blog est fourni d'informations. Vous avez aussi sur MSDN une partie consacrée entièrement à OData et WSF Data Services où vous pourrez voir que l'on peut gérer la sécurité, intercepter les requêtes, différencier les éléments que l'on renvoie suivant le profil que l'on a, etc. D'ici là, et je vous remercie et je vous dis à bientôt.